Mission Expert, Bonjour la planète, Laura Jane Gauthier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bonjour la planète, une émission en partenariat avec la fondation Good Planet et dans laquelle, un mercredi sur deux à 9h, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un ou une invitée qui travaille à la préservation du vivant et de la planète. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés en studio Yannick Roudot. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Vous êtes auteur, conférencier, cofondateur de la maison d'édition éco-responsable La Mer Salée. Bienvenue. Et j'ai également à mes côtés Héloïse Bourdon. Vous êtes soliste de l'Opéra de Paris. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Merci infiniment d'être à nos côtés. Évidemment, il y a Jonathan Ouarégave de la fondation Good Planet, comme une émission sur deux, et fondateur de Merci pour l'Info de Joe, une chaîne YouTube de vulgarisation des enjeux écologiques. Bonjour Jonathan.
Bonjour Laura Jane.
Merci d'être avec nous comme d'habitude. Alors Yannick, on va commencer avec vous, Yannick Roudot, si vous le voulez bien évidemment. Vous venez de sortir un nouveau livre, puisque vous avez l'habitude de sortir des livres, si je puis dire. Il s'intitule « Quand l'improbable surgit, un autre futur revient dans la partie ». Ma première question est simple, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ?
C'est extrêmement simple, c'est que j'ai une fille adolescente, et il y a un an, elle avait 15 ans, elle me dit en regardant son téléphone, « Tu sais papa, en 2050, on est tous morts ». Et là, j'étais un peu choqué, je lui dis « C'est pas aussi simple que ça, c'est un peu plus complexe ». Et à force de rencontrer des étudiants, ce que je donne des cours dans des écoles, des universités, je me suis dit « Il y a quand même un problème, c'est qu'on sent que cette jeunesse, elle est à la fois dépressive pour certains et à la fois en colère pour d'autres ». Et il y avait urgence, à mon avis, à publier, à leur donner... l'envie de se battre, de ne pas baisser les bras. Et donc, l'idée de ce livre, c'est de faire le point sur où on en est, où est-ce qu'on va et pourquoi il ne faut pas lâcher, en quelque sorte. C'est-à-dire que dans mon caractère, moi, j'ai l'habitude de ne jamais lâcher parce que jusqu'au dernier moment, il peut surgir un événement improbable qui change la donne. C'est toutes ces vies sauvées au dernier moment, à la dernière seconde. Et aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la trajectoire climatique et de la biodiversité, on est très mal parti, on est très mal embarqué. Mais ce n'est pas pour ça que ça va se réaliser et ce n'est pas pour ça que tout est foutu, tout est cuit. Il ne faut pas se résigner à la fatalité. Donc c'était ça l'objet de ce livre. Et j'espère que des jeunes vont le lire, des moins jeunes aussi. Mais c'est vraiment, il s'adresse d'abord à la jeunesse pour qu'elle se batte. Qu'elle ne baisse pas les bras.
C'était ma question. J'allais vous demander justement à qui est adressé ce livre. Est-ce qu'il s'adresse uniquement aux jeunes ou également à d'autres publics ?
Non, c'est tous les publics. C'est tous ces gens qui aujourd'hui craignent l'effondrement. Parce qu'en fait, moi-même, en 2012, j'ai travaillé sur la collapsologie. J'avais publié un livre qui s'appelle La Nouvelle Controverse où j'expliquais qu'on allait droit vers l'effondrement. Les 5 facteurs d'effondrement de Jared Diamond étaient en place. Les grandes civilisations naissent, se développent, s'effondrent. Une autre civilisation prend la place. Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'effondrement d'une civilisation occidentalisée basée sur l'hyperconsommation. Et qui va se traduire par un effondrement de la biodiversité, de la biosphère, de la vie sur Terre et surtout de l'espèce humaine. Et depuis quelques années, surtout depuis le livre de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer, beaucoup de gens découvrent cette théorie de l'effondrement, comme on dit, la collapsologie. Et c'est très paralysant, c'est très angoissant, c'est très anxiogène. Et depuis quelques années, finalement, on a énormément de gens qui ont découvert cette éventualité qui se précise. Et en face, qu'est-ce qu'on leur propose ? Voilà. C'est ça le problème. Qu'on leur propose ?
Donc votre livre, c'est une proposition pour répondre d'une certaine manière en partie à la collapsologie ?
Alors c'est pas anti-collapsologique parce que moi, je suis convaincu que si nous ne changeons pas de trajectoire, si nous restons dans le même modèle économique, la même façon de consommer, la même psychologie, la même philosophie, on va vers l'effondrement, c'est-à-dire la disparition de l'espèce humaine dans quelques décennies ou quelques siècles. Ça va aller assez vite. Ça, c'est une certitude. Par contre, là où je suis très optimiste,
c'est sans compter sur l'improbable.
Voilà, c'est qu'une fois qu'on a fait un exercice de lucidité, ça vient du mot lucidus, la lumière. Une fois qu'on a mis la lumière sur la situation, qu'on voit l'obscurité, qu'on peut la traverser, la lumière permet de fendre l'obscurité, de la traverser avec une bougie dans la main. Et cette bougie, elle nous dit quoi ? Qu'il y a une petite lucarne quelque part, là, qui s'éclaire au fond du tunnel. Cette lucarne, derrière, si on la passe, c'est un cône de lumière, c'est l'ouverture vers un autre monde, vers un autre paradigme. Et ça, on ira vers cette lucarne, parce que des phénomènes inattendus vont surgir, peuvent surgir. C'est-à-dire que l'effondrement est fort possible, mais il n'est pas assuré, il n'est pas garanti, parce que l'histoire de l'humanité n'est qu'une succession de phénomènes improbables et inattendus.
Alors, on va revenir à ces différents scénarios de l'inattendu dans quelques instants. Mais avant ça, quand même, je voudrais revenir sur un événement un peu fou. Votre livre, vous l'avez écrit avant l'arrivée du Covid, du coronavirus, juste avant. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'intuition ? Parce que c'est quand même dingue, cette histoire.
Oui, c'est une intuition et c'était une évidence. C'est-à-dire que ça fait quelques années que j'explique qu'il y a plusieurs facteurs d'effondrement et de facteurs de transformation du monde extrêmement violents. Ça peut être une bonne nouvelle, c'est-à-dire une rupture technologique comme par exemple l'énergie libre, l'énergie de Nikola Tesla, où on se connecte à l'énergie de la foudre, l'énergie électrique, électrostatique. On arrive à l'utiliser et on abandonne le pétrole, on abandonne les énergies fossiles. Ça serait la bonne surprise. Et puis, il y a toutes les mauvaises surprises, l'effondrement financier, le crack. L'effondrement du système monétaire international. Ça, c'est un scénario possible qui peut arriver dans quelques mois, quelques années. Et puis, il y avait ce scénario pandémique, je n'étais pas le seul à en parler, parce que c'est évident qu'à 8 milliards d'habitants qui exerçons une pression anthropique trop forte sur la nature, qui poussons les animaux sauvages en dehors de leur habitat, qui allons les côtoyer, ça allait créer des zoonoses, on appelle ça, c'est-à-dire des parasites qui sont dus à des mutations d'un animal qui vient vers un être humain et qui développe des pandémies. Donc la pandémie, elle devait arriver un jour ou l'autre, elle était potentiellement réalisable. Et puis finalement, quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était en juillet 2019, je listais tous ces événements qui pouvaient nous arriver, bons et mauvais.
Comment on liste ce type d'événements? Comment est-ce qu'on on se les figure, puisque c'est quand même...
Oui, c'est pas très compliqué. En fait, il suffit de regarder autour de soi et de regarder ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, puis d'analyser ce qui se passe. Au niveau de la finance, pour moi, c'est facile parce que j'étais journaliste financier pendant 15 ans, donc je connais très bien les marchés financiers. Et là, je peux vous dire que les milliards de liquidités qu'on est en train d'injecter, ça va pas bien se terminer un jour ou l'autre. Peut-être que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, ça peut être demain matin, on ne sait pas. Mais ce n'est pas sain.
On en parle de plus en plus et on dit que c'est de plus en plus proche malgré tout.
Alors le problème, c'est que ça fait 10 ans moi, que je dis que le crack, que Lehman Brothers, c'était l'apéritif et que le prochain crack, celui de 2021 ou 2022, il sera encore pire. Mais pour l'instant, j'ai peur. Parce que l'ingénierie financière est telle qu'on vient de créer un outil qui s'appelle la Banque Centrale, qui existait déjà, mais à qui on a accepté de donner toutes les dettes. Donc en fait, c'est une pyramide de Ponzi, comme on dit, c'est un jeu où toutes les dettes, on les fait porter par quelqu'un d'autre. Et puis le jour où la BCE pourra plus porter les dettes, qu'est-ce qu'on fera? On créera une autre banque internationale qui portera la dette, ainsi de suite. Donc, on croise les doigts pour que personne ne demande à être remboursé. Donc, on rentre dans un monde inconnu au niveau financier. On rentre dans l'inconnu. Taux négatif. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu pénible. Mais donc ça, on regarde ce qui se passe. Après, au niveau des pandémies, c'est assez simple. L'histoire de l'humanité est jonchée de pandémies, marquée par des pandémies. Je vous rappelle que la grande peste médiévale au XIIIe siècle, c'est 40% de la population européenne qui meurt. On n'avait pas les moyens médicaux d'aujourd'hui. Et puis le virus était beaucoup plus virulent, beaucoup plus tueur, beaucoup plus morbide. On a eu des épidémies comme en Afrique récemment, comme le virus Ebola. Ce qui est nouveau, c'est que les Occidentaux, en fait, tous les pays dits développés économiquement, nous sommes dans une bulle où nous pensons protéger des dérèglements climatiques, nous pensons protéger des famines, nous pensons protéger des pandémies. Et moi, ce que j'ai voulu remettre au centre, c'est que si nous ne réagissons pas dès maintenant, dans la décennie 2020-2030, nous irons vers des famines. Nous irons vers des pandémies, nous irons vers des événements climatiques catastrophiques.
Encore plus qu'actuellement.
Voilà. Et en même temps, il y aura encore de la joie, de l'amour et du bonheur. Ça, c'est extrêmement important.
Mais qui deviendra de plus en plus difficile face à tant de problématiques.
Oui, mais c'est le retour en fait à la vie qu'ont connue nos ancêtres il y a 150 ans, 200 ans, 300 ans, 500 ans. C'est-à-dire qu'on est dans une illusion quelque part depuis quelques décennies, les Occidentaux. On s'est coupé de la nature, on s'est coupé du monde, on s'est coupé de la vie. En ce sens qu'on ne veut plus mourir. C'est pour ça que cette pandémie pose tant de problèmes. On ne veut plus que les anciens partent. Ça, c'est nouveau dans l'histoire de l'humanité. On ne veut plus risquer de mourir en traversant la rue. On ne veut plus risquer notre vie, en fait. Alors que l'histoire de l'humanité, c'est quoi? C'est même en 39-45, hein, il suffit de remonter à quelques décennies. Mes grands-parents ont vécu la guerre. C'était terrible et enthousiasmant en même temps. Terrible en ce sens qu'ils perdaient des proches, qu'ils risquaient leur vie. Ils étaient bombardés, ils étaient en Normandie en plus, donc ils étaient dans le feu de l'action. Et en même temps, je me rappelle de ma grand-mère qui me parlait des balles, de l'amour, des rencontres, de la vie et des rigolades en même temps. Et en fait, je pense qu'il est important de remettre les choses en considération. Ce qui nous arrive aujourd'hui, ce qui peut nous arriver dans les prochaines années, ça va être terrible et enthousiasmant. On rentre dans une période clair-obscur. Le clair-obscur, c'est ni mauvais ni bon, c'est la vie. C'est-à-dire que si on a un prisme d'analyse morbide et mortifère, on ne voit que les mauvaises nouvelles aujourd'hui et on peut se plaindre, on peut se dire c'est terrible, on vit une vie incroyablement difficile, ce Covid, etc. Et en même temps, quand on reprend un peu de recul, nous sommes occidentaux, on a de l'eau courante, on est en sécurité, on a énormément de confort matériel, c'est très pénible ce que l'on vit actuellement, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Donc surmontons-le, surpassons-le, et on va en avoir d'autres beaucoup plus. Ce qui va être plus terrible dans les prochaines années, c'est le risque de dépendance alimentaire et le risque de famine. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur aujourd'hui.
Donc selon vous, face à l'urgence bien évidemment de la crise écologique, au fond ce qui pourrait, alors c'est peut-être un peu fort, mais entre guillemets nous sauver, c'est précisément l'inattendu et l'improbable?
Alors inévitablement en fait, la limite de la collapsologie quelque part, et je ne critique pas les collapses une fois encore, j'en fais partie en partie, c'est que la collapsologie c'est regardons ce qui se passe aujourd'hui, regardons si on le projette sur 10 ou 20 ans ce que ça donne, et sur un siècle ce que ça donne, c'est-à-dire qu'on fait une projection linéaire. La collapsologie
n'est pas linéaire.
Voilà, la collapsologie part du principe qu'il n'y a pas d'inattendu dans le scénario. Et les analyses scientifiques sont justes. Hein. Tout le travail des collapsologistes est juste. Maintenant, quand on regarde l'histoire de l'humanité, il s'est passé énormément d'événements inattendus, improbables. La chute du mur de Berlin, la révolution russe, le droit de vote des femmes, 300 femmes devant le Parlement britannique qui permettent une évolution sociétale, la révolution française. Tous ces grands mouvements qui ont fait bifurquer les révolutions scientifiques, les découvertes, qui font bifurquer l'humanité, qui la font changer de trajectoire, ne sont jamais prévisibles. Et j'écris en fait une phrase qui résume assez bien les choses, c'est que le prévisible se réalise rarement, l'improbable surgit souvent. Notre vie, ce n'est qu'une succession d'événements inattendus et improbables, mais on passe notre temps à essayer de prévoir ce qui va arriver. Et donc aujourd'hui, c'est prendre conscience que si nous ne bougeons pas, nous allons vers un effondrement qui est déjà en cours, de toute façon. Maintenant, quelles sont les pistes de résilience qui nous permettent de dire « ce n'est pas sûr que ce soit la fin ». Eh bien là, c'est là où je mise sur le surgissement de l'inattendu. Et le surgissement de l'inattendu, c'est le Covid. Parce que le Covid, je vais être très cynique, mais finalement, c'est une excellente nouvelle pour les jeunes et pour l'environnement. C'est une mauvaise nouvelle pour les vieux. C'est très, très dur de dire ça, parce qu'il y a des gens qui perdent des proches aujourd'hui, il y a des gens malades. Mais si on n'avait pas eu le Covid, on n'aurait jamais eu la certitude que l'économie mondiale pouvait bifurquer, s'arrêter, changer de trajectoire. Et là, on a eu la preuve en quelques semaines que tout pouvait s'arrêter. On a cloué les avions au sol, on a arrêté des industries polluantes, on a laissé les gens chez eux, on a développé le télétravail, on a commencé à penser autrement. Alors, bien sûr, il n'y a pas de grand soir. Tout ne va pas changer en 3 mois. C'est là où certains se sont trompés en pensant que le monde d'après allait surgir. Non, le monde d'après, il faut quelques années pour qu'il surgisse. Il est déjà en train d'évoluer, de devenir. Mais avant qu'il se densifie, il va falloir encore un peu de temps. Mais en tout cas, on a eu la preuve que l'on pouvait faire autrement et qu'on peut vivre en consommant moins, en se déplaçant moins, en voyageant moins. Alors bien sûr, certains vont me dire, oh, on n'a pas envie d'une vie de restriction, je vais pouvoir passer les week-ends à droite à gauche. Mais on a eu la preuve qu'on pouvait faire autrement.
Yannick Rudeau, restez avec nous. On se retrouve tout de suite sur Vivre FM.
Bonjour la planète, Laura Jane Gauthier.
Bonjour et bienvenue dans Bonjour la planète. On reprend nos échanges avec Yannick Rudeau, auteur, conférencier, cofondateur de la maison d'édition éco-responsable La Mer Salée. Yannick, on était en train de parler de votre livre qui s'intitule « Quand l'improbable surgit, un autre futur revient dans la partie ». On a parlé de collapsologie. Je voudrais qu'on poursuive nos échanges. Vous dites que l'origine de l'impasse capitaliste dans laquelle on se situe est le déni de nature. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bien, le déni de nature, c'est que quand on regarde les peuples natifs, qui sont animistes, les Indiens, les Indonésiens, les gens que j'ai pu rencontrer à travers différents voyages dans les années passées, c'est des gens qui ne connaissent pas le mot nature. Il y a cette anecdote d'un chef indien amazonien qui vient en Europe et on lui parle des questions environnementales. Il comprend ce qu'on veut dire et quand il rentre dans sa tribu, il cherche le mot pour expliquer à ses collègues, à ses confrères de quoi on parle. Parce que eux, le mot environnement n'existe pas. Comme disait Michel Serres, le mot environnement pose problème, ce qui nous met au centre de quelque chose qui nous entoure. Voilà. Et nous, les Occidentaux, occidentaux et pas que, les religions monothéistes nous ont mis en séparation de la nature, parce que l'homme est une créature divine dans les religions monothéistes. Et donc, l'homme est particulier. Il est au-dessus du vivant. Et après, on a eu l'humanisme de la Renaissance, où René Descartes nous pose comme maître et possesseur de la nature. Et le reste, ce sont des machines articulées qui ont un instinct. Qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas de sentiment. Et donc, petit à petit, nous sommes rentrés en lévitation. L'être humain s'est déconnecté du vivant, est devenu une machine extraordinaire hors sol, pour qui la nature n'est qu'une ressource dans laquelle il va puiser, ou une source d'agrément. Voilà, c'est un paysage, ça l'environne. Et en fait, ce déni, ce renoncement à accepter le fait qu'on fait partie du tout, et que la nature est en nous, et que je suis la nature, que la Terre est en moi, on n'est que de la poussière d'étoile. Hein. Ma main droite, c'est pas la même étoile que la main gauche. Tout ça n'est que de la poussière d'étoile. On fait partie du tout. Et ce déni de faire partie du tout nous a mis à l'écart et nous a fait perdre la vibration originelle que tous les animaux ont avec le vivant. Tous les animaux vibrent avec la nature. Je donne toujours un exemple, c'est que sur une plage d'Asie, quand il y a un tsunami, toutes les espèces fuient avant l'arrivée de la vague. Il y a une espèce en short avec un smartphone sur la plage en train de filmer ce qui se passe. C'est Homo sapiens. Parce qu'on ne sent pas l'onde de choc arriver. On la sent plus. La sédentarisation de l'humanité.
Vous pensez que quand il y a des siècles, l'homme, l'Homo sapiens sentait.
Ah mais il l'avait inévitablement. Quand nous étions chasseurs-cueilleurs, pendant 390 000 ans, Homo sapiens était chasseur-cueilleur. Quand nous étions chasseurs-cueilleurs, nous n'avions d'autre choix que de sentir la nature. Et pourquoi les hommes gardaient les cheveux longs ? parce que c'est des capteurs sensoriels qui permettent de sentir un danger, de sentir un animal. C'est une question de survie.
D'où vos cheveux longs, Yannick.
Voilà, exactement. Et puis est arrivé, dans ce monde dangereux, la sédentarisation de l'humanité qu'on appelait le néolithique, la révolution agricole, il y a 12 000 ans. Et là, on a commencé petit à petit, progressivement, ça s'est fait sur des milliers d'années, c'est une évolution, hein, c'est de l'épigénétique, c'est nos gènes qui ont évolué, et on a perdu ce contact, cette vibration avec la nature, parce qu'on n'en avait plus besoin. Puisque nous vivions dans des villes, nous cultivions notre nourriture, les animaux étaient domestiqués, et finalement, il y a quelques dangers quand on se promène dans la forêt, mais très peu. Donc on a perdu cette vibration, on est dans un déni de nature. Pour nous, la nature n'est qu'une ressource. On n'a toujours pas compris que c'était un partenaire indispensable, c'est la source de la vie. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a encore énormément de gens dans le monde qui n'ont toujours pas compris que quand je fais du mal à la nature, je mets en péril l'espèce humaine. C'est la base pourtant, c'est pas de la politique, c'est la base.
Et en même temps, de plus en plus de personnes reviennent un petit peu à ça, par tout un tas...
Ça, c'est la bonne nouvelle.
Par le développement personnel, exactement. Par la spiritualité, etc. Voilà. Est-ce que ça bouge ?
Alors ça, c'est la bonne nouvelle, et c'est là où je suis serein, moi, sur l'évolution des choses. Alors serein pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'ai aucune prise sur ce qui va vraiment se réaliser. Donc je n'ai des prises que sur ce que je fais actuellement. Donc agissons dans le présent en espérant qu'on aille vers cette résilience de l'humanité. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Rien. Donc ça ne sert à rien d'avoir peur de se focaliser sur un événement dans 30 ans ou 40 ans qu'on ne maîtrise pas. Par contre, il faut se focaliser sur le présent, tout de suite maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que beaucoup de gens sont en phase d'éveil, en phase de montée en conscience, de prise de conscience que la nature soigne, la nature fait du bien, la nature apporte de la joie, c'est des promenades en forêt, c'est les bains de forêt, c'est des gens dans les parcs, des gens sur les plages. Et le confinement a accentué ce besoin de nature, on a senti le manque au fond de nous. Donc il y a cet éveil, on commence à écouter son corps, à sentir qu'il y a des demandes de nos cellules qui veulent s'alimenter en nature. Et puis il y a une génération, alors il ne faut pas faire l'apologie des jeunes, parce qu'il y a jeunes et jeunes, hein, il y en a des biens, il y en a des pas bien, mais les jeunes que je côtoie dans les différentes écoles, universités, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. Il y a une maturité plus forte sur ces questions-là, il y a une lucidité sur ce qui leur arrive, parce qu'avoir 20 ans aujourd'hui, c'est quand même pas facile. En ce sens que nous, quand nous avions 20 ans, moi j'ai 50 ans, c'était qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, quel métier tu vas faire, tu vas faire carrière entre guillemets, combien tu vas gagner, où est-ce que tu vas vivre. Aujourd'hui c'est attentat, il y a une époque, Covid aujourd'hui, donc privation de liberté, et puis c'est cette épée de Damoclès, effondrement de la biodiversité, de la biosphère. Waouh, c'est dur. Donc ils n'ont d'autre choix que de devenir plus humains qu'ils ne le sont, le plus rapidement possible. Parce que le drame, c'est que Homo sapiens, sapiens s'est déclaré comme étant sage, modéré, et puis extrêmement lucide et intelligent. Et en fait, on n'est pas des humains. On est des sous-humains pour l'instant. Parce que si nous étions rationnels et humains, comme le dit Descartes, eh bien on ne saccagerait pas le vivant. La rationalité, c'est de protéger la nature, c'est de la réparer, c'est d'arrêter ce que nous faisons. Et nous faisons tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. Nous ne sommes pas rationnels, nous sommes des adolescents à qui on a confié des armes de destruction massive qu'on appelle l'industrie chimique et autres.
Alors Yannick Roux, on a encore un certain nombre de sujets à aborder ensemble. À la fin de votre livre, vous ouvrez sur notre représentation du futur. Quand je dis notre, je parle de la représentation qu'on a du futur en Occident. Et vous dites que nous avons une vision erronée du temps, une vision linéaire. En quoi est-elle erronée selon vous ? Et selon, si j'ai bien compris, un certain nombre de scientifiques.
Oui, alors il y a plusieurs choses. Effectivement, les Occidentaux estiment que le temps, on part d'un point A, on va vers un point B. Donc il y a le passé derrière moi, dans mon dos, il y a le futur devant moi, et il y a le présent, c'est moi. En Asie, le temps, c'est une énergie qui circule en permanence. Donc le passé peut être devant et le futur peut être derrière. Ça, c'est déjà difficile à comprendre pour nous occidentaux. On se dit, mais comment ils réfléchissent ? Et les Asiatiques ont créé un mot, les Chinois ont créé un mot pour parler de notre temps à nous, pour pouvoir discuter avec nous, parce que ce n'était pas la même représentation. Et puis après, il y a les physiciens, astrologie, physiciens quantiques, scientifiques, qui vous disent, le temps de l'univers n'est pas le temps terrestre, n'est pas le temps de l'humain. Et en fait, les dernières découvertes qui ont été faites en physique quantique, donc au niveau de l'infiniment petit, hein, la physique quantique, c'est au niveau atomique, au niveau des atomes, on se rend compte que futur, présent, passé sont en même temps sur la table, j'ai envie de dire. Et les travaux d'un monsieur comme Philippe Guillemont, que je cite dans le livre, qui travaille au CNRS, c'est passionnant parce qu'il nous dit le futur est déjà déployé en partie, et au moment où je vous parle, un de mes futurs est en train de vivre autour de moi, et mes actions présentes vont densifier un de ces nombreux futurs potentiels. Et Nietzsche disait déjà, bien avant 2020, le futur influe le présent et le présent influe le futur. C'est-à-dire qu'on appelle ça une rétrocausalité. Il y a une action permanente entre le futur, le présent et le passé.
C'est presque une approche mystique finalement.
Alors c'est une approche mystique, mais aujourd'hui qui est... Alors ce qui est intéressant, c'est que les populations, on va dire les hindouistes, dans les Védas, les bouddhistes, les animistes, parlent de ça comme une évidence. Et nous, occidentaux, qui nous sommes coupés de la nature, qui avons considéré ces populations comme des sauvages qu'il fallait civiliser, on a complètement gommé tout ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'ils disaient, c'était pas si idiot que ça, et que finalement, aujourd'hui, comme nous sommes rationnels, cartésiens, on a besoin de le démontrer par la physique quantique.
En fait, si je comprends bien, l'Occident tout entier est dans une ignorance parfaite.
Nous ne connaissons pas grand-chose, effectivement, et la problématique, je pense, la base, c'est d'accepter que nous ne connaissons pas les mystères de la vie, que la nature a énormément de choses à nous apprendre, que ça passe par le biomimétisme, par la spiritualité, par des tas de choses, et qu'on ne se sortira pas de cette impasse si on ne fait pas ce saut quantique philosophique et spirituel où on accepte de contempler la nature, de la regarder, de la bichonner, de la préserver, de la réparer et d'en tirer des enseignements. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la physique quantique, l'infiniment petit, on constate ce qui se passe, mais on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça. Ça nous échappe.
Alors moi, votre livre, je l'ai trouvé fascinant. Je l'ai adoré parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une approche qu'on voit finalement très très peu dans des livres, surtout sur les questions environnementales, puisque vous parlez effectivement comme de sujets traditionnels, hein, la collapsologie, les mouvements de jeunesse qui se créent, etc. Voilà, mais vous parlez aussi donc beaucoup, hein, on l'a dit, de spiritualité. Il y a une vraie ouverture vers le spirituel, en tout cas vers une autre approche de ces problématiques. Et vous parlez notamment du pouvoir de l'intention et des synchronicités. Pour celles et ceux, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui ne savent pas très bien de quoi il s'agit, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors en fait, les synchronicités, c'est un mot qui a été vulgarisé par Carl Gustav Jung, psychanalyste contemporain de Freud. Il s'est fâché avec Freud, il a bifurqué. Et Jung nous explique qu'en fait, ça rejoint les travaux de Philippe Guillemant sur les futurs, c'est là où la physique rejoint la psychanalyse. Ça veut dire que j'ai une capacité de créer des événements qui vont m'être favorables, ce qu'on appelle les heureuses coïncidences, les heureuses rencontres. J'ai une intention forte, j'ai envie de devenir danseuse. J'ai une forte envie. Comme par hasard, un jour dans ma vie, quelqu'un va me tendre la main, va me dire « mais viens, passe ce concours, viens danser avec moi ». Synchronicité, on va dire. Quelle chance, quel heureux hasard. Est-ce que c'est un hasard pur et dur ou est-ce que c'est parce que j'ai fortement eu envie de ça que j'ai créé l'événement et que cet événement s'est produit? Alors ce que nous dit Carl Gustav Jung et ce que corroborent les scientifiques, c'est que peut-être que c'était déjà écrit quelque part dans un des futurs qui m'est possible, il y en a plusieurs futurs pour chaque personne, et que ayant eu cette intention, j'ai excité ce futur, qui est celui de mon moi profond, du soi on appelle ça. Ce message m'est venu, c'est une information qui traverse une dimension qui nous échappe. Cette information me vient et ce futur se densifie. C'est-à-dire que dans un des futurs qui me sont offerts, il y avait cette possibilité. Et donc, ça veut dire quoi ? Qu'aujourd'hui, on est en train de densifier un futur apocalyptique, un futur morbide, dystopique. Parce que dans l'inconscient collectif, l'apocalypse, on a tout ça en culture, c'est la punition divine, c'est la claque que l'humain va prendre parce qu'il s'est mal comporté. Donc, si on pense tous de manière collapsologique que c'est foutu, on risque de densifier ce futur. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pour ça que sans être un bisounours illuminé en disant « il suffit de penser fort et ça marche », c'est pas ça mon propos. C'est qu'il faut mettre une intention extrêmement positive dans ce qu'on fait. Il faut croire en l'utopie. Il faut croire en un futur gai, un futur où l'homme s'en sort, mais dans la frugalité, la simplicité, la spiritualité, c'est-à-dire qu'on abandonne l'hypermatérialisme. Et à ce moment-là, on va exciter ce futur.
Donc c'est un savant mélange entre agir très concrètement, mais aussi faire attention à ses pensées et au pouvoir de l'intention qu'on met.
Tout à fait.
Restez avec nous Yannick Rudeau, on se retrouve tout de suite.
Bonjour la planète, Laura Jane Gauthier.
Bienvenue sur Vivre FM, nous poursuivons nos échanges avec mes invités. Yannick Rudeau, auteur, conférencier, cofondateur de la maison d'édition éco-responsable La Mer Salée et Héloïse Bourdon, soliste de l'Opéra de Paris. Yannick, on va continuer avec vous, nous étions en train de parler de spiritualité. Vous parlez donc dans votre livre beaucoup de spiritualité et vous parlez également des états de conscience modifiés des chamans ou autres grands spirituels de ce monde. Et je voudrais qu'on en parle. Vous nous dites, avec de l'entraînement, ces signes du futur pourraient aussi être déclenchés par un individu à condition qu'il développe la posture adéquate. Ma question est donc la suivante, c'est quoi la posture adéquate ?
Alors je ne suis pas le spécialiste des états modifiés de conscience, hein. Moi je ne fais que coller des morceaux, faire une synthèse de ce que j'ai pu lire ou ce que j'ai pu vivre. Et en fait, c'est-à-dire que c'est cette relation au temps. Si on pense que le temps est linéaire, c'est une ligne de pointillés qui se dessine sous nos pieds à mesure qu'on avance, on ne peut pas imaginer que quelqu'un voyage dans d'autres temporalités. Ça, c'est très occidental. On n'imagine pas qu'on puisse faire un saut vers un futur potentiel ou un passé qui a eu lieu. Le chamanisme et toutes ces cultures, on va dire ancestrales, eux partent du principe que grâce à des plantes, grâce à des drogues, grâce à des produits naturels, on peut
se relier au vivant.
Voilà, sortir de son corps quelque part, se relier à la nature, communiquer avec les plantes, communiquer avec la nature, et puis se transposer dans une dimension, c'est là où on rejoint la physique quantique, une dimension où un autre futur est déjà déployé. Donc certains sorciers, certains chamans vont faire un voyage temporel et vont te dire « je t'ai vu quand tu seras adulte, voilà ce qui va se passer, voilà, et c'est ce vers quoi tu devrais aller. Après, il y a un libre arbitre, il n'y a pas de déterminisme. À chacun d'écouter ou de ne pas écouter. Et donc, ce qui est passionnant, c'est que dans notre vie, et aujourd'hui, c'est valable pour l'humanité par rapport à la destruction de vivants, on a le choix de poursuivre la trajectoire sur laquelle on est embarqué, qui est une trajectoire mortifère. Et on a un autre choix, qui est de se dire non, on ne veut pas. Et on va y mettre une forte intention pour que des événements propres surgissent et nous permettent d'aller vers autre chose. Et si on est nombreux à y mettre cette intention forte, on va peut-être déclencher des stimuli qui vont faire surgir des choses. Peut-être que le Covid est un surgissement d'un futur qui cherche à s'imposer. Pourquoi le sous-titre, j'ai mis un autre futur vient dans la partie ? Je l'explique parce que les gens ne comprennent pas trop parfois pourquoi j'ai mis ce sous-titre. Parce que moi, j'étais joueur de tennis il y a une époque. Et en tennis, on le voit régulièrement, on l'a encore vu à Roland-Garros, vous êtes mené 4-7, on est au 5e set, en fait, vous êtes mené 5-0, 40-0, 5e set, on vous dit c'est cuit. Et vous remportez les 3 balles de match, vous les sauvez. Et puis vous êtes à 5-1. Et puis vous remontez à 5-5.
Donc le match n'est jamais vraiment terminé.
Et vous gagnez le match. On en est là aujourd'hui au niveau de l'humanité. On est mené 40-0 au 5e set. On va perdre la partie si on bouge pas. Mais on n'a pas encore perdu. Il y a la possibilité de remonter la pente, comment ? En bifurquant. Et donc, ça passe par des événements qui vont surgir, qui vont venir nous aider. Et le Covid est un événement qui empêche l'économie mondiale de poursuivre sa destruction, parce que rien ne peut arrêter cette économie. Personne ne veut s'arrêter, personne ne veut perdre son emploi. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas facile de s'arrêter. Tout le monde a besoin de gagner sa vie, de vivre, de se nourrir. Donc, on contribue tous, on est tous complices à la destruction du vivant. On porte tous de la pollution sur nos dos, on en génère. Qu'est-ce qui peut nous arrêter ? La contrainte, l'événement improbable, le surgissement. Une contrainte qui peut devenir positive. Parce que de ce surgissement du Covid naît un exode urbain qui a commencé, des gens qui retournent vers la nature, un questionnement sur l'hypermatérialisme, sur l'hyperconsommation. Donc, plus on met de fortes intentions, plus on a de chances que des choses comme ça se produisent.
Alors, vous parlez également du niveau de conscience de l'humanité. Je vais vous lire un petit extrait. Tous les peuples dits premiers ont un rite initiatique de passage à l'âge adulte, souvent réservé aux jeunes hommes, lesquels n'ont pas l'opportunité d'entrer dans la féminité par les lunes, le saignement. Ce rite initiatique est parfois dangereux, scarification, défi physique, émotionnellement éprouvant, afin de faire accéder le jeune adolescent à un nouveau stade de conscience. En frôlant la mort ou en vivant une expérience mystique dont il se rappellera toute sa vie, le jeune accède à l'âge des responsabilités. Il coupe le cordon avec ses parents et peut enfin décider de sa vie. Il devient adulte et conscient. L'humanité aurait-elle besoin d'être confrontée à ce type d'expérience pour enfin se comporter en adulte, intelligent, sage, raisonnable, prudent ? Cette question, c'est vous qui la posez et je vous la pose à mon tour. Comment faire pour accélérer le niveau de conscience de l'humanité quand on sait que ça se joue à un niveau individuel ? Et finalement, les Occidentaux ne sont-ils pas, comme on le disait tout à l'heure, parfaitement immatures ?
Bah pour moi, on est ces adolescents qui sommes dans ce rite initiatique. C'est-à-dire qu'on est en train de frôler la mort, on est en train de frôler l'extinction de l'espèce humaine, parce que la nature s'en sortira, hein, sans nous, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je pense que ce rite il est en cours et que les peuples non natifs, c'est-à-dire tous ces gens qui avaient été envahis par le mythe de la croissance infinie, de l'hyperconsommation étant source de bonheur, on est progressivement, alors pas tous en même temps, pas tous à la même vitesse, et tout le monde ne le fera pas, peut-être, on est tous plus ou moins en train de s'éveiller et d'aller vers l'âge adulte. C'est pour ça que je disais que sapiens, si c'est auto-décrété, mais il n'est pas adulte, il faut aller vers le très humain, vers l'hyper-humanité, et c'est en cours. C'est pour ça que je suis assez serein, il y a une montée des consciences qui est en cours. On est en train de se rendre compte qu'on est en train de tout gâcher, tout tuer, et qu'alors qu'on avait une chance incroyable. Donc c'est déjà en cours. Après, est-ce que tout le monde le fera ? Non, tout le monde ne le fera pas, ce chemin. Mais ce n'est pas grave, parce que ce que j'explique dans le bouquin, je le rappelle, c'est que l'humanité, les grands événements, c'est 5%, 10% maximum de la population mondiale. Et ça a toujours été comme ça. Il faut arrêter de penser que les 80% qui ne s'en occupent pas vont nous freiner dans le développement. Non, c'est tout à fait normal. Quand vous courez un marathon, il y a des milliers de personnes qui vous regardent, mais vous courez, c'est la même chose. Continuez à courir. Et les autres ne bougent pas, tant pis, c'est pas grave.
Yannick Rudeau, je pourrais rester toute la journée à parler avec vous parce que c'est absolument fascinant. Mais nous avons également une fabuleuse invitée en plateau, Héloïse Bourdon. Je me tourne donc maintenant vers vous. Vous êtes soliste de l'Opéra de Paris. Ça veut dire quoi déjà, soliste ?
Ça veut dire que je suis amenée à danser des rôles seule en scène, mais pas que en fait, puisque ça peut être aussi des pièces de groupe sur des créations plus contemporaines. Ou, voilà, soliste,
et vous êtes danseuse ?
Voilà,
pour les gens qui ne sont pas familiers des...
professionnels, oui.
Ok, super. Ça. À l'Opéra de Paris.
À l'Opéra de Paris.
Rien que ça. Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre parcours ?
Oui, alors j'ai commencé la danse à l'âge de 8 ans. J'ai rencontré un professeur qui s'appelait Max Bozzoni, qui avait ouvert sa propre école de danse rue Rodier. Mes parents habitaient avenue Trudaine et donc j'ai commencé la danse avec ce professeur qui m'a amenée à passer le concours d'entrée à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Donc c'est une école qui se trouve à Nanterre-Préfecture. C'est une école à horaires aménagés avec l'internat, la scolarité le matin et des cours de danse l'après-midi. Donc j'ai fait tout mon cursus là-bas, donc de 8 ans à 16 ans. Et à 16 ans, j'ai été engagée dans le corps de ballet. Donc c'est sous forme de concours. Voilà, j'ai eu la chance de danser des grands rôles classiques, comme des pièces aussi contemporaines. J'ai eu la chance de travailler aussi avec des chorégraphes contemporains, Ophèse Schächter, Crystal Pait. Et là, actuellement, je suis sur une nouvelle création de Damien Jallet, qui débutera le 5 novembre à l'Opéra Garnier.
Alors, vous êtes venu dans Bonjour la Planète aujourd'hui pour nous parler d'un événement qui aura lieu le 1er novembre à la Fondation Good Planet et qui s'appelle Plateau Vert. Je vais laisser peut-être Jonathan Warregave nous expliquer de quoi il s'agit avant de revenir évidemment à vous et Louise Bourdon.
Alors, en fait, on organise pour sa deuxième édition le festival, c'est un festival de théâtre engagé à l'origine qui s'appelle Plateau Vert, qui revient à la Fondation Good Planet. Donc, ce sera les trois premiers week-ends du 1er novembre au 22 novembre. La raison de la venue d'Héloïse, c'est parce que ce festival de théâtre s'est ouvert aux arts vivants et notamment à la danse. On pourra en reparler ensemble après. Et alors là, il s'agit d'un événement vraiment ouvert à tout le monde, hein, à toute la famille. On a sur réservation des pièces de théâtre engagées dès 5 ans. Donc c'est des pièces de théâtre pour enfants qui parlent de recyclage, de chimie dans l'agriculture ou encore de préservation de la biodiversité. On aura aussi la chance de débattre avec des personnes, avec des acteurs du monde du spectacle, des comédiens ou encore des metteurs en scène pour parler de, et ça c'est très important, de la place de l'écologie dans le théâtre contemporain et aussi comme outil de sensibilisation pour les jeunes et pour les moins jeunes. Et comme je le disais, la grande nouveauté, c'est que ce festival s'ouvre aux arts vivants et accueille un duo de danseurs de l'Opéra de Paris avec Héloïse Bourdon, qu'on a la chance d'avoir en studio, et Jérémy Louquer, qui sera un peu son duo maléfique, hein, si je puis dire, qui nous proposeront un ballet classique et un ballet contemporain. Donc on aura vraiment un panaché du meilleur cru d'Héloïse et de Jérémy Louquer.
Alors Héloïse, comment s'est créée cette collaboration sur cet événement avec la Fondation Good Planet ?
J'ai reçu tout simplement un appel de Jonathan cet été, qui m'a demandé de participer à la mise en place de lots caritatifs. Et donc j'ai accepté la proposition. Donc un lot caritatif, je ne sais pas si tu
peux expliquer. Oui, en fait, on organise aussi une vente aux enchères à la fin de l'année à la Fondation Good Planet pour maintenir la gratuité du lieu, pour continuer à recevoir gratuitement des scolaires, des enfants, des familles. Et on organise une vente aux enchères d'expériences. Et parmi les expériences qu'on proposera, qu'on pourra acheter, donc ce ne sera pas des biens matériels, on aura la chance de pouvoir passer une journée avec Héloïse dans les coulisses de l'Opéra de Paris.
Voilà, donc c'est-à-dire je montrerai mon quotidien, j'ai tout mon univers en 24 heures, donc ma loge, ma préparation au maquillage, à la coiffure, mon choix de pointe, tous ces moments un peu en dehors de ce qu'un spectateur peut voir quand il vient nous voir en spectacle, backstage.
Oui. Louise Bourdon, restez avec nous. On se retrouve tout de suite sur Vivre FM.
Bonjour la planète, Laura Jane Gauthier.
Bienvenue sur Vivre FM. Nous poursuivons nos échanges avec mon invité Héloïse Bourdon et Jonathan Warregave, responsable des relations presse de la Fondation Good Planet et fondateur de Merci pour l'info Joe. Et je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de dire que Héloïse est soliste à l'Opéra de Paris, même si on l'a dit juste avant. Donc je le répète. Alors nous étions en train de parler d'un événement qui va avoir lieu à la Fondation Good Planet le 1er novembre. Il s'agit de Plateau Vert. Héloïse, est-ce que vous voulez bien nous expliquer ? Vous allez danser deux ballets ce jour-là. De quoi s'agit-il ?
En fait, quand Jonathan nous a contactés, on a imaginé avec mon compagnon, donc Jérémy Louquer, qui est aussi danseur à l'Opéra de Paris, un spectacle de 30 minutes à l'occasion donc, de l'événement Plateau Vert le 1er novembre, avec deux extraits de ballet. Un extrait de ballet classique, donc Le Lac des Cygnes, et une création originale qu'on a intitulée Songe et que nous avons créée avec mon compagnon pendant le confinement.
Donc, voilà. Comment est-ce qu'on crée un ballet
Comment on crée un ballet ouais. On se met dans un studio, on collabore avec un musicien et ça se fait petit à petit. En fait, c'est très expérimental. En fait, on a vraiment essayé d'occuper notre temps de façon constructive et artistique et créative, en fait. Et l'idée de cette pièce, c'est un concept très simple. C'est un couple entre quatre murs, et ces quatre murs vont se refermer au fur et à mesure de la pièce. Et en fait, ces murs, ils symbolisent l'angoisse,
l'enfermement,
ce qu'on a pu vivre. En fait, on a essayé de mettre en mouvement ce que nous ressentions pendant le confinement. C'est vrai que ces deux personnages qui sont devant une structure anxiogène, en fait. Ces murs représentent
Le sentiment d'être oppressé également,
oui,
j'imagine.
Oui, exactement. Oui.
Et donc, vous allez danser.
Et donc, on va le présenter à la Fondation le 1er novembre. Voilà. Et suite à la représentation, il y aura aussi un échange avec le public et on répondra aux questions posées sur le parcours ou sur la pièce. Voilà.
Est-ce que, indépendamment de votre travail, de votre passion, même j'imagine, je devrais dire, de soliste à l'Opéra de Paris, vous êtes sensible à la cause environnementale, et est-ce que ça a été un facteur déterminant pour accepter cette collaboration avec la Fondation Good Planet ?
Alors oui, je suis sensible à la cause environnementale. Après, je me trouve pas suffisamment active. J'ai un manque de temps aussi. Et là, c'est vraiment l'occasion, justement, à travers cette collaboration, de m'investir à ma façon et à ma manière, et surtout avec mon art. Pour collaborer de façon active. Voilà.
Alors justement, comment est-ce que l'art peut être une autre porte d'entrée pour sensibiliser à différentes causes, en l'occurrence l'environnement, mais ça peut être tout un tas de causes?
Alors je pense que toute approche artistique, que ce soit pas seulement la danse, hein, mais la peinture, la photo, le théâtre... C'est une façon moins brutale et moins frontale d'aborder justement la cause environnementale, comparé à des chiffres ou à des statistiques qui peuvent être justement plus choquants. Et justement, je pense qu'on va toucher l'inconscient chez les gens et on leur parle... C'est l'âme qui parle, donc et à travers le geste, en fait, enfin particulièrement si on parle de la danse, le fait de se mouvoir et de bouger pour dire des choses ou pour défendre quelque chose, c'est il y a un rapport au corps, et comme disait Yannick, ce rapport au corps, il est finalement ancestral et presque animal, en fait. Donc d'après moi, la danse, oui, ça peut être un bon moyen pour défendre une cause environnementale, parce que c'est proche du nous profond, quoi, du soi profond. Donc on se rapproche de ces cellules-là.
Je pense qu'il y a l'émerveillement aussi, comme la photo, comme la danse, comme le théâtre, qui est une porte d'entrée un peu plus douce pour être sensible et sensibilisé aux enjeux humains, solidaires et environnementaux.
Héloïse Bourdon, merci infiniment. Je me tourne maintenant justement vers vous, Jonathan. Donc, Jonathan Ouarégave, vous êtes responsable des relations presse de la Fondation Good Planet et fondateur de Merci pour l'Info Joe, une chaîne YouTube de vulgarisation des enjeux écologiques. Alors, ma première question est, pourquoi le télétravail est-il écolo ?
Ah, est-ce que vous êtes sûr que c'est cette question que vous voulez me poser, Laura Jen ?
Pas du tout. je suis perdue. Alors, quelle est ma première question, Jonathan ?
On va faire ça de façon très naturelle.
Voilà, donc vous avez l'air reposé, est-ce que
oui,
je me trompe ?
Oui, exactement. Non, vous ne vous trompez pas, on ne peut rien vous cacher, Laura Jen. Figurez-vous que si j'ai ce teint de bébé, c'est parce que je dors deux fois plus qu'avant.
Et c'est quoi votre secret, Jonathan ?
Alors mon secret, c'est que je me réveille à 9h28, j'ouvre les yeux à 9h29 et je peux sereinement commencer à travailler à 9h30 avec un bon café et une petite noisette de lait.
Donc, si je ne me trompe pas, vous mettez donc 2 minutes pour vous préparer et aller au travail. C'est physiquement quasi impossible.
Alors, je vous l'accorde, comme le dit le proverbe québécois, on ne demande pas à un cheval de pendre un œuf. Excusez-moi pour cet accent québécois. Mais l'impossible est devenu possible depuis que j'ai découvert, ou plutôt redécouvert, le télétravail. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que le travail à distance est là, ou en tout cas l'une des solutions, qui fait son grand retour depuis le confinement pour freiner l'épidémie du coronavirus. Bon, certes, pour une danseuse de l'Opéra de Paris comme vous, Héloïse, c'est pas vraiment un sujet. Il y a plus confortable pour répéter le lac des cygnes que dans son salon. Ni d'ailleurs pour l'écrivain que vous êtes, Yannick, accoutumé à mettre en mots votre imaginaire éclairé à la bougie dans la bulle créative de votre appartement. Je m'adresse surtout aux 30 millions de salariés qui, en France, ont le feu vert du gouvernement pour recourir massivement au télétravail, notamment dans les villes en état d'alerte maximale. Toi qui contribues à la richesse économique du pays, bien souvent depuis un open space saturé, tu n'as plus besoin de faire croire à ton employeur que tu es le cas contact d'un obscur cousin germain révélé positif au test du coronavirus. Fini les mensonges, tu hors de ma vue, tu vas pouvoir davantage profiter de la chaleur de ton foyer et travailler depuis ton canapé. Merci qui ? Merci Babette.
Babette, c'est-à-dire ?
Notre ministre du Travail, Elisabeth Borne. Je me permets ce petit nom affectueux depuis que notre ancienne ministre de la Transition écologique s'est mise à inciter, enfin, les salariés français à adopter un comportement éco-responsable.
Ah, parce que c'est éco-responsable de télétravailler maintenant ?
Évidemment, c'est plus écologique. Vous pouvez sortir de votre lit pour commencer votre journée de travail, en conservant votre t-shirt taille XL Les Simpsons, votre nuisette ou encore votre grenouillère, chacun ses mauvais goûts. Et oui, Jamy, lorsque vous laissez votre machine à laver au repos, plus précisément en sommeil, je fais très bien le sifflement de Jamy, hein, mécaniquement, cela conduit à diminuer votre consommation d'eau, d'énergie et surtout de produits chimiques de synthèse pour le lavage de vos habits.
Bon, je suis désolée Jonathan, mais ce n'est pas du tout une raison valable, ça ne marche pas.
Bon, si vous n'êtes pas prête à renoncer à la propreté de vos vêtements, comprenez au moins que le télétravail permet de diminuer significativement la pollution sonore. Et oui, la diarrhée verbale infligée par nos collègues dans les couloirs de bureau est un vrai fléau pour le salarié français. Patrick, patoche pour les intimes, est souvent peu soucieux de votre désintérêt explicite quand il vous raconte son week-end dans un moulin bourguignon avec sa femme qu'il surnomme Pupus. Et pareil pour Catherine, qui vous explique de manière exhaustive les bienfaits de manger en pleine conscience. Petit clin d'œil à Yannick. Et heureusement que le masque est imposé en entreprise, sinon la pollution olfactive d'une haleine chaude et fétide doublerait cette pollution sonore.
Je trouve que vous allez bien loin quand même, Jonathan. Vous n'avez pas un vrai argument écologique ?
Je vous trouve un petit peu dur en affaire, mais laissez-vous au moins convaincre par mon dernier argument, et pas des moindres. Tenez, pour aller au travail, 70% des salariés en France prennent la voiture et parcourent en moyenne 30 km entre leur domicile et leur bureau. Vous êtes d'accord ? Vous imaginez ? Imaginez, on pollue chaque année autant qu'un Paris-Moscou en voiture, 3100 km. Alors oui, les Français n'ont pas tous une alternative de transport moins gourmande en énergie fossile. On n'a pas tous la chance de se déplacer, comme Héloïse, Yannick ou encore vous, Laura Jen, en prenant la ligne 13 saturée du métro parisien et de profiter des nombreuses animations offertes par la RATP, type colis suspect, voyageur malade ou encore la douce mélodie d'un joueur de mandoline unijambiste. Parce que l'énergie la plus verte est celle que l'on ne consomme pas et que les transports constituent le premier poste d'émission des gaz à effet de serre en France, Française, Français, si votre travail vous le permet, restez chez vous, s'il vous plaît. C'est tout pour moi.
Bon, ok, Jonathan, vous m'avez convaincu. Bon, pour le politiquement correct, on repassera, mais vous repasserez de toute façon.
Merci.
Merci infiniment à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Yannick Rudeau, merci Héloïse Bourdon. Merci infiniment. Je vais y arriver, décidément.
Un, deux.
Après cette marée comme ça, on n'y arrive plus. Merci infiniment, Jonathan Ouarégave. On se retrouve dans 2 semaines, même jour, même heure. Vivre FM, podcast.